Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il s'appelle Yu Yanagisawa, il est japonais, chercheur à l'université de Tokyo, et il vient, dit-il, d'inventer quelque chose d'encore mieux que le verre incassable, le verre auto-régénérant. Un nouveau matériau qui, lorsqu'il est cassé, se répare facilement. Il suffit, nous dit la dépêche AFP qui rapporte l'information, de serrer les deux parties l'une contre l'autre pendant environ 30 secondes à température ambiante avant que le miracle s'opère. Alors voilà qui pourrait s'avérer fort utile en cas de chute inopinée de votre téléphone portable, étant entendu que celui-ci tombe toujours du mauvais côté, c'est-à-dire celui de l'écran. Mais les fabricants auront-ils envie d'adopter ce nouveau verre, eux qui sont soupçonnés d'organiser l'obsolescence programmée de leur smartphone? Fin décembre, une plainte a d'ailleurs été déposée en France contre Apple pour dénoncer cette pratique qui consiste à réduire délibérément la durée de vie d'un produit. Une telle plainte aura-t-elle vocation à convaincre les industriels de proposer des objets plus solides et plus durables? Il y a en tout cas une demande aujourd'hui et donc peut-être un marché. Certaines marques ont d'ailleurs décidé d'investir ce créneau de l'incassable, du réparable à long terme, voire du garanti à vie. Alors peut-on fabriquer des objets inusables? C'est la question que nous posons ce soir avec de nombreux invités, à commencer par vous, Olivier Chambon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un maker, c'est le nom moderne qu'on donne aux bricoleurs à l'âge du numérique. Ça consiste à faire soi-même ses objets ou à les réparer. Votre savoir, vous le diffusez sur votre chaîne YouTube, La Grotte du Barbu. J'ai vu que votre dernière création, c'était une poubelle à roulettes. En tout cas,
exactement,
la dernière création mise en ligne.
Ouais.
Pour discuter avec vous, Gilles Bellet, bonsoir.
Bonsoir.
Designer, responsable des diplômes de l'ENSCI, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, école où des étudiants développent des projets d'objets inusables. On aura l'occasion d'en discuter. Enfin, on verra si d'ailleurs le terme d'objet inusable est un terme qui convient à ces projets-là. Troisième invité, Emmanuel Charpie, bonsoir.
Bonsoir.
Historien chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de la culture matérielle et de la consommation. Eh bien, ce sera intéressant de voir avec vous justement ce que représentent peut-être ces phénomènes et d'obsolescence et de durabilité sur un temps long de l'histoire des produits manufacturés. Puis notre quatrième invitée, elle est au téléphone, il s'agit de Laetitia Vasseur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice et la déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. C'est cette association qui a déposé une plainte contre Apple après avoir déposé une plainte assez proche à l'égard d'un fabricant d'imprimantes. Et vous avez publié l'an dernier, puisque c'était en 2017, si je ne m'abuse, aux éditions alternatives, du jetable au durable, en finir avec l'obsolescence programmée. Alors, peut-être pour commencer la discussion, je voudrais faire un rapide tour de table avec une question. J'espère que ce ne sera pas une question piège, mais j'aimerais savoir les uns et les autres, quel est le dernier objet neuf que vous avez acheté? Et je vais commencer peut-être à poser la question par celui qui les répare normalement, donc qui en achète peu. Olivier Chambon.
En général, j'achète des outils plus que des objets finis. Là, le dernier outil que je me suis acheté, je crois que c'est des ampoules. Donc c'est pas super funky.
Des ampoules qui durent longtemps?
Des ampoules à LED, ouais.
Donc normalement, voilà, ça fait partie justement de ces objets qui sont censés être des objets durables. Manuel Charpie.
Je crois, en période de Noël, c'est compliqué de répondre à ça, mais pour moi, j'ai...
Vous avez des enfants qui croient au Père Noël, vous ne faites pas
oui,
de gaffe.
Oui. Un pantalon, fabriqué à Mexico, je pense, avec du coton ouzbek, quelque chose comme ça.
Gilles Bellet.
Et pour moi, c'est un microprocesseur pour actualiser un vieil ordinateur qui date de 2007, je crois, ou 2009, et le rendre utilisable aujourd'hui.
Laetitia Vasseur, est-ce que vous, c'est un smartphone, le dernier objet que vous avez acheté, objet neuf?
Non, j'ai pas eu la nécessité de racheter un téléphone neuf. Par contre, comme je viens de déménager, j'ai dû investir dans des meubles et du coup, je me suis tournée vers des meubles de seconde main pour essayer d'allonger la durée de vie des produits.
Ah oui, mais ça, c'est pas de l'objet neuf, alors justement. Hein. vous avez misé sur le recyclable. Je voudrais, c'était un premier tour de table, ça permettait aussi de faire connaissance avec vous tous. Revenir quand même un instant donc sur cette plainte que vous avez déposée, Laetitia Vasseur, contre Apple. plainte qui est permise par une loi française qui date de 2015, qui prévoit une peine maximale de 2 ans de prison et une amende de 300 000 euros. Dans le cas, je vais lire l'article où un fabricant serait reconnu coupable de réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. C'est donc ça qu'on appelle l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie perspective de procès, voire de condamnation d'Apple?
Oui, ce qui est intéressant avec cette loi qui est inédite en France, qui est pionnière en la matière, c'est bien de pouvoir sanctionner les marques et sortir d'un sentiment d'impunité de celle-ci, de pouvoir faire de l'obsolescence programmée comme si de rien n'était, en culpabilisant les consommateurs. Ce qu'on espère, tant pour les fabricants d'imprimantes visées que pour dans le cas d'Apple, c'est à la fois de sanctionner des pratiques malhonnêtes, mais aussi de donner un signal fort pour aller vers des produits plus durables et réparables.
Manuel Charpie, si le législateur a cru bon de faire une loi comme celle-ci sur l'obsolescence programmée, est-ce que c'est parce qu'il a fait le constat qu'il y avait peut-être une dérive en la matière et que les objets manufacturés avaient une durée de vie de moins en moins importante? Est-ce qu'en tout cas l'historien que vous êtes peut faire ce constat-là?
Je crois qu'on le fait tous quand même dans l'expérience quotidienne. Je pense que c'est qu'il y a une demande sociale aussi, sans doute. On verra, mais cette loi risque d'être assez peu appliquée. Enfin, on verra ce que ça donne, mais c'est évident qu'on va dire depuis une vingtaine d'années, il y a quand même tout un tas d'objets qui achetés neufs ont des durées de vie extrêmement courtes. Et ça tient, j'imagine qu'on va y revenir, mais à la fois à la mode, au phénomène de mode, c'est-à-dire qu'on remplace aussi très rapidement. Et puis quantité d'objets, se cassent rapidement parce qu'ils sont à des coûts extrêmement faibles. Et donc, je ne sais pas si c'est de l'obsolescence programmée nécessairement, mais en tout cas...
Oui, parce que la difficulté, c'est de prouver qu'il y avait bien une intention.
Ce qui va être très compliqué à définir, c'est peut-être plus facile sur l'action des logiciels, mais si on prend Apple, ça part de ce cas-là. On sait que les changements de connectique, etc., font que de toute façon, on est coincé, on est entraîné en permanence. Et que les objets eux-mêmes sont très difficiles à réparer. C'est l'autre versant du débat aujourd'hui. C'est la question de la réparation. Une chose est sûre, c'est que il y a encore 25 ans, il y avait des magasins de réparation à peu près partout. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de trouver un magasin pour faire réparer, je sais pas, un grille-pain. Ça devient très très compliqué. Notamment parce qu'un grille-pain neuf coûte souvent moins cher que de le faire réparer.
En tout cas, difficulté effectivement de prouver qu'il y a eu une intentionnalité, donc il y a bien obsolescence programmée, sauf peut-être si vous nous dites par exemple, Gilles Bellet, que dans une école comme la vôtre, je rappelle, l'École nationale supérieure de création industrielle, il y a aussi peut-être des réflexions. Alors on va aller sur les objets durables, mais il pourrait très bien aussi y avoir des réflexions pour créer des objets dont on programme l'obsolescence. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser?
Je crois que par nature, il faudrait que les designers notamment, mais aussi les industriels, s'emparent de cette question-là d'une manière positive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un objet ne puisse pas être obsolète à un moment, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là, en fait. Et est-ce qu'il y a des possibilités de le mettre à jour? Est-ce qu'il y a des possibilités de le réparer? Est-ce qu'il y a des possibilités de le faire disparaître aussi, totalement ou en grande partie? Et c'est vrai que dans l'école où j'enseigne, les étudiants, enfin la génération d'étudiants actuels s'empare vraiment de cette question, parce qu'ils sont très intrigués par la question de la technique en fait aujourd'hui.
Il n'y en a pas qui vous disent, tiens, ben moi j'aimerais bien plutôt imaginer un objet qui au bout de 5 ans finira par ne plus avoir aucune utilité parce qu'il aura été justement programmé pour être totalement obsolète.
Ils ne peuvent pas se projeter comme ça en fait. Ils ont, je pense, une volonté, une rigueur morale, en fait, tout simplement, je pense, vis-à-vis de leur métier, qui n'est pas toujours facile à tenir face aux contraintes industrielles et commerciales, mais il y a un vrai enjeu à essayer de tenir cette contrainte morale. Et au contraire, ils essayent plutôt de se projeter dans des solutions qui sont plutôt faites pour pouvoir évoluer avec le temps, s'adapter, redonner l'accès à l'utilisateur au maximum des potentialités de l'objet. Donc ils sont plutôt dans des voies alternatives en fait.
Olivier Chambon, vous qui vous confrontez quotidiennement à des objets que vous fabriquez, mais aussi que vous recyclez pour en fabriquer de nouveaux, est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a un phénomène d'usure accélérée justement de ces objets avec lesquels vous travaillez?
D'usure accélérée, je ne sais pas trop. Déjà, il y a des barrières. les industriels mettent par exemple des vis qui sont complètement pas standards pour empêcher les gens d'ouvrir le matériel. Moi, c'est un de mes combats, c'est de dire, aujourd'hui, on est dans une société où tous les objets sont un peu magiques, entre guillemets. Vous savez pas ce qu'il y a dans votre téléphone, vous savez pas ce qu'il y a dans votre ordinateur, vous savez pas ce qu'il y a dans votre télé, dans votre lave-linge. Moi, déjà, la première chose, c'est ouvre le truc, regarde ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est fait, comment c'est conçu. Et si t'arrives pas à le réparer, bon, mais au moins, t'auras appris un petit peu comment ça a été fait, comment ça a été fabriqué. On parlait tout à l'heure des magasins de réparation, c'est purement une question de coût. Quand on prend l'exemple du grille-pain, un grille-pain bas de gamme, ça coûte 20 balles. Qui aujourd'hui peut passer une heure pour essayer de réparer un grille-pain et facturer ça 5 euros ? Personne. Donc, automatiquement, la réparation devient obsolète. Donc, c'est des objets qui sont jetables. C'est malheureux.
Donc, c'est plus le prix et le bas prix qui ont fait des objets obsolètes qu'une intention qui serait totalement délibérée de les...
Sur une partie. Mmh. En tout cas, sur l'électroménager bas de gamme. Sur l'électroménager bas de... Enfin, vous allez dans n'importe quel magasin, vous trouvez un grille-pain à 19,99€. Et c'est souvent des grille-pains pourris, en plastique, qui se démontent pas, qui se réparent pas. Donc, ça a été clairement fait pour être jeté à la poubelle et acheté. Après, la vraie problématique, c'est votre téléphone, qui aujourd'hui coûte 1000 balles. Est-ce que tous les deux ans, vous avez les moyens de mettre 1000 balles dans un téléphone? Eh ben, pas vraiment. Sauf que, justement, les industriels vous poussent à aller en acheter d'autres, pas spécialement parce qu'ils marchent plus. Alors si, Apple, dernièrement, a ralenti tous les anciens téléphones, soi-disant pour un problème de batterie.
Voilà, ensuite, reconnu l'avoir fait en disant, c'était pour pas que ça s'arrête de manière trop brutale, c'était une mort douce, quoi, disons.
Voilà, on peut questionner leur motif et dire, est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Le fait est que, tous les ans, on a des nouvelles générations de téléphones, et on a des milliards qui sont investis dans des publicités pour nous les pousser en disant, achète le nouveau Samsung, achète le nouveau Apple, achète le nouveau truc. C'est une course un peu effrénée, quoi.
Manuel Charpie.
Oui, non, pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur le côté objet magique, c'est vrai qu'on est dans une logique quand même si certains designers travaillent contre ça, mais d'être environné d'objets qui sont illisibles, enfin qui sont des espèces de boîtes noires, des sous-capots, quoi, y compris pour des objets extrêmement simples et ordinaires qu'on pourrait comprendre. Et l'évolution quand même, on va dire, depuis les années plastiques, et ça s'est fortement accentué depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir des objets qui se démontent pas, qui sont collés, soudés. Là, c'est pour des questions de production, de réduction des coûts, etc. Mais vous évoquiez les vis qu'on peut pas démonter, mais il y a même plein d'objets qu'on peut pas démonter tout simplement sans les casser. Ouais. Et je pense que tout le monde a fait l'expérience. Et ça va bizarrement à contresens de l'histoire de l'industrie, qui était plutôt une histoire de la pièce détachée. La naissance de la mécanique, c'est l'échange standard, c'est-à-dire une pièce peut en remplacer une autre. On pense tous, je sais pas, aux machines à coudre par exemple. Il y avait partout dans n'importe quel village, on pouvait racheter des pièces détachées, etc. Donc c'est pas que les objets étaient mieux faits, mais c'est qu'ils étaient réparables en permanence avec un réseau de pièces détachées. Je crois qu'on est sorti pour le moment, en tout cas, de cette logique-là.
Laetitia Vasseur, je rappelle le titre du livre que vous avez publié, « Du jetable au durable ». Est-ce que ça veut dire que la première des conditions, par exemple pour vous, et puis pour les autres invités, de la durabilité d'un objet, c'est la compréhension de son fonctionnement et la capacité qu'on peut avoir à soit le réparer soi-même, soit le faire réparer?
Oui, en fait, il y a plusieurs niveaux dans la durabilité. Ce qu'on évoque aussi, c'est qu'il y a une culture plus au-delà de l'obsolescence programmée telle qu'elle est définie par la loi. Nous, ce qu'on dénonce à travers ce livre et l'association, c'est une culture de l'obsolescence accélérée, du tout jetable, où presque demain, les ordinateurs portables seront conçus pour être jetés. Donc derrière ça, ce qu'on attend, nous, c'est que les objets soient conçus pour être plus durables et réparables pour des raisons sociales, mais aussi écologiques. Et à travers le durable, ce qu'on entend, c'est plusieurs choses. C'est qu'ils soient déjà plus robustes pour certains d'entre eux, donc moins fragiles avec des composants certainement moins fragiles, mais également, en effet, qu'ils soient réparables, qu'on puisse facilement entrer dans la machine, comme disait notre maker, c'est-à-dire pouvoir comprendre mieux son fonctionnement. Et disons qu'il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Il y a autant l'auto-réparation, donc avec des forums, des guides plus fournis et des pièces détachées disponibles. Il y a beaucoup de sites internet qui se développent maintenant avec les pièces détachées. Et puis, dans un second temps, peut-être que tout le monde n'est pas prêt à auto-réparer. Pour cela, il y a des repair cafés, il y a des donc des repair cafés, ce sont des endroits bénévoles pour réparer gratuitement. Et puis on a des réparateurs professionnels aussi qui offrent des nouveaux services avec des coûts plus intéressants, surtout quand les machines sont mieux conçues.
Alors vous avez évoqué deux termes, la robustesse, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on s'arrête quand même encore un instant pour discuter du côté réparable des objets. Gilles Bellet, dans cette école dont vous êtes un des responsables, est-ce que c'est une condition, disons, de base de la réflexion sur les objets que vous imaginez et vos étudiants, j'imagine, ont un certain nombre de projets. Est-ce qu'il y a, par exemple, des projets un peu exemplaires qui vont dans ce sens-là de la réparabilité sur le long terme? On a beaucoup parlé, il y a en tout cas quelques articles dans la presse, d'une machine à laver, par exemple, conçue, je crois, par un ou plusieurs de vos étudiants pour durer 50 ans.
50 ans, oui, c'est ça.
Ça veut dire quoi, alors, une machine à laver qui peut durer 50 ans?
Alors, dans leur projet, une machine à laver qui peut durer 50 ans, c'est un équilibre entre des composants, principalement le châssis qui peut durer plutôt un siècle, je pense, en acier, des composants électroniques qui sont facilement changeables, modulables et surtout réparables, des éléments de personnalisation, la façade en l'occurrence, qui est le seul endroit qui peut dépérir sur une machine à laver, et puis un accès facilité aux composants clés que sont le tambour, la pompe, certains composants électriques.
Donc là finalement il y a le mélange à la fois de robustesse et de réparabilité.
Oui, parce que on peut pas regarder cette question du durable simplement du point de vue de la robustesse, en fait, parce que la plupart des objets aujourd'hui sont plutôt très robustes, et notamment les objets électroniques, les téléphones notamment, les ordinateurs, etc. Et c'est plutôt un problème, en fait, souvent. C'est plutôt cette robustesse qui peut poser problème.
Pour quelle raison? Parce qu'on peut se dire, au contraire, plus c'est robuste, plus ça va durer. Donc plus
si je prends l'exemple de l'imprimante Epson, pour citer la marque concernée par une des plaintes, mais aussi d'autres, Samsung, etc., on a des imprimantes qui sont souvent relativement robustes, voire très solides, mais où le fait qu'un composant lâche à l'intérieur nous laisse démunis, parce qu'on ne sait pas comment mettre les doigts dans la boîte noire, effectivement, on ne sait pas comment la réparer, et ça coûte trop cher, et du coup, effectivement, on va plutôt la jeter, la remplacer. Mais cette imprimante, elle est quelque part quasi neuve, en fait. En tout cas, on peut souvent le constater à l'extérieur, elle est en général d'aspect quasi neuf. Alors, il y a des marchés parallèles d'occasion, de seconde main qui se développent, tant mieux, des systèmes de réparation aussi, mais c'est vrai que voilà, faut pas envisager que la question de la robustesse. Et le projet de la machine à laver, il est intéressant parce que il place la robustesse juste à des endroits clés et stratégiques comme le châssis de la machine et le tambour, en fait.
Olivier Chambon, la machine à laver, ça fait partie, par exemple, des objets que vous réussissez à investir, à réparer facilement?
Si on établit une pyramide de la réparabilité, entre guillemets, elle est clairement en haut, parce que c'est pas très difficile de réparer une machine à laver. Par contre, quand on cite une imprimante jet d'encre, c'est un enfer, parce que c'est du plastique, excusez-moi, c'est des bouts d'aluminium pliés, et souvent c'est pas la structure en elle-même qui casse, c'est des petits pignons en plastique qui coûtent un dixième d'euro, et quand c'est cassé, ça nécessite littéralement 3 heures pour aller réparer le truc, et d'un point de vue économique, c'est juste pas envisageable.
Alors, ce qui est intéressant, c'est les imprimantes 3D aujourd'hui, les Fab Labs, qui permettent normalement d'avoir ces pièces détachées de manière un peu plus simple.
Il y a beaucoup d'endroits alternatifs, et la dame au téléphone avait cité les Repair Café, mais vous pouvez aller dans un Fab Lab, vous pouvez aller dans un Hackerspace, où ils vous accueilleront avec plaisir et ils vous montreront comment démonter les objets et comment les réparer. Moi, je suis aussi dans une optique qui est, avant de les réparer, j'essaie de les adapter à mon besoin. Plus ils seront adaptés à mon besoin, moins j'aurai besoin de m'en séparer. Donc ça veut dire, la table, je suis relativement grand, je fais 1m92, donc une table standard me va pas. Donc en général, je coupe les pieds, je les remplace, j'adapte les chaises, enfin, c'est plein de petites choses comme ça.
Donc vous les pensez quand même dans la durée, c'est-à-dire quand vous fabriquez ou que vous réparez un objet, c'est pour durer, c'est pas uniquement pour réparer, mais de manière un petit peu brève, quoi.
Non, parce que moi, en général, tous les projets que je fais, c'est des projets chez moi ou dans les objets qui m'entourent. Et j'essaye de l'adapter à mon besoin. Et puis aussi de répondre à certaines problématiques que d'autres personnes éventuellement sur le web ont. j'ai pas d'exemple précis à vous balancer, mais c'est vrai que d'abord, avant de jeter ou avant de réparer, essayons de faire en sorte que notre environnement soit le plus adapté à nos besoins. Et c'est vrai que là, alors par rapport à il y a 20 ans, on a une source inépuisable, le web, et en particulier YouTube, etc. Moi, j'ai trouvé par exemple des tutos pour réparer des imprimantes. C'était en vietnamien. Mais il y a le côté visuel où on voit le mec qui appuie sur la troisième touche qui est en haut à gauche. Et même sans connaître la langue, on arrive quand même à glaner des informations. Il y a 20 ans, ces informations-là, elles existaient pas.
Est-ce que ça, c'est pas effectivement une vraie évolution, peut-être même une vraie révolution dans notre rapport aux objets, Manuel Charpie, qui peut aussi peut-être permettre d'envisager ces objets plus durables sur une durée et pas seulement comme un phénomène de mode qui serait lié soit alors, je sais pas, bon, des considérations écologiques ou aussi un peu la mode du vintage, c'est-à-dire qu'on a aussi envie de revenir vers des objets un peu plus anciens parce que on a l'impression que, je sais pas, moi, tout ce qu'avaient nos grands-parents, c'était forcément des choses qui duraient. Ouais. C'était peut-être pas si mieux que ça d'ailleurs.
Oui, non, alors là, il y a plein de choses dans votre question. Il y a d'abord effectivement cette idée qu'avant on construisait des objets plus durables, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. L'immense majorité des objets produits, je sais pas, à la fin du 19e siècle n'existent plus, donc voilà.
Oui, finalement, on ne voit que ceux qui ont duré, mais ceux qu'on a jetés,
surtout, en général, on les fait durer pas dans l'usage, on les fait durer comme objet plutôt de décoration, comme objet, voilà. Donc il faut aussi se faire un. Penser qu'ils sont sortis d'usage, donc ils sont sortis de l'usure et de l'usable. Mais évidemment, il y a tout ce mouvement des objets patinés, c'est-à-dire des objets usés par l'usage. On peut noter quand même qu'on a du mal à. Qu'on aime beaucoup les objets qui ont été patinés par le temps ou par d'autres, mais les objets qu'on use soi-même, c'est moins net. Il n'y a qu'à voir nos vêtements là autour de la table, on a tous des vêtements plus ou moins propres, pas raccommodés, pas etc. Enfin, donc on sait qu'on a quand même une tolérance très très faible à l'usure des objets et qu'on les change en partie pour ça. Vous parliez tout à l'heure de la question de la catégorie du neuf, c'est une catégorie qui arrive à la fin du 19e siècle, cette idée qu'il y a un objet doit être neuf. Avant, les objets sont quand même constamment transformés. Donc, je pense que c'est pas tant qu'ils étaient mieux faits, mais il y avait une économie de la transformation. Et vous évoquiez tout à l'heure la mise au goût du jour. C'est une pratique au 19e siècle très ordinaire sur les vêtements, par exemple. On garde la même structure de vêtements et puis on va changer des rubans, des boutons, des machins. Et voilà. Et l'objet vit dans la durée. Et sans que les textiles soient nécessairement bien meilleurs qu'aujourd'hui. On sait aujourd'hui faire des très bons textiles. Donc il y a cette question-là, et du coup j'ai oublié l'autre aspect de votre question.
Eh ben moi je l'ai oublié également, mais cela dit, je voulais revenir sur la question de la robustesse qu'on a évoquée, et je trouvais intéressant d'ailleurs ce que vous disiez, Libellé, c'est-à-dire que c'est pas forcément une condition sine qua non de la durabilité, parce que ça peut poser un problème si cette robustesse du matériau est en décalage avec le côté un peu plus éphémère de l'usage. Je voudrais vous faire écouter une publicité qui date du tout début des années 70, c'est pour un fabricant de radiateurs en fonte. La fonte, ça dure et ça va durer.
Mais dites donc, c'est du solide, ça. Et c'est en quoi, ce truc-là?
C'est de la fonte.
Ah, évidemment. Et dites-moi, ça chauffe bien?
C'est de la fonte.
Ah, évidemment. Et ça s'abîme pas, ce truc-là?
C'est de la fonte.
Évidemment, si c'est de la fonte. On dit ça, mais enfin, c'est garanti. Et combien de temps? 2 ans? 5 ans? 10 ans?
De la fonte.
Ah bon, fallait le dire. Alors c'est garanti à vie.
Radiateur en fonte, garanti à vie.
Manuel Charpie, est-ce qu'il n'y avait pas l'idée aussi peut-être d'un mythe de la technologie et de un peu lié à la révolution industrielle qui faisait quoi là des objets solides qui ne s'usent pas, c'était le sorte presque de Graal de.
Si, c'est très net dès les débuts, on va dire vraiment de l'industrialisation dans les années 1830. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on en invente le terme inusable. Donc déjà, ça dit quelque chose. Et il y a un double fantasme très fort qui est d'un côté trouver des matières qui ne s'useront pas, inaltérables, hein, c'est le mot qu'on retrouve tout le temps, qui d'ailleurs touche d'abord des choses intimes. Il y a l'idée notamment les portraits sur les tombes. Il faut que ce soit inaltérable et donc on cherche des matériaux, des techniques pour voilà, et on invente tout un tas de nouveaux matériaux, je sais pas, l'aluminium, le caoutchouc, qui sont toujours présentés comme les matériaux éternels, l'inox, voilà. Donc il y a cette idée sur les matières elles-mêmes, et là on vient de l'entendre sur la fonte, on est vraiment dans cette logique là sauf qu'on sait que bon voilà, il y a une histoire de la fonte et de son de la manière dont elle a disparu en partie du quotidien. Et puis il y a aussi, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, la question des designers, enfin des ingénieurs d'abord, puis des designers. L'idée que si on fait un objet bien designé, économe, beau, il va durer plus longtemps, on va le garder plus longtemps. C'est aussi en grande partie un fantasme, puisque je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a parlé des imprimantes et il suffit de se promener dans les rues de n'importe quelle ville, il y a des imprimantes, mais il y a aussi tout un tas de meubles, par exemple en aggloméré, avec Donc l'obsolescence touche aussi des objets très simples, pas que des objets techniques.
L'obsolescence touche des imprimantes, peut-être plus pour longtemps, car il y a quelqu'un que j'ai pas encore présenté dans cette émission, qui vient de l'École nationale supérieure de création industrielle, qui vous a accompagné, Gilles Bellet. Il s'agit de Paul Morin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes étudiant dans cette école. Alors, j'attendais un petit peu de vous faire intervenir, parce que surtout pour présenter un projet, enfin, vous en avez même deux, d'objets durables, peut-être d'objets inusables, justement. Une imprimante durable, je sais pas comment vous l'avez appelé d'ailleurs, je sais pas dans quel matériau vous l'avez conçu, et ça serait quoi son idée de durabilité, cette imprimante?
Oui, alors l'imprimante que j'ai conçue, elle est pas tellement durable par sa matière, mais c'est l'usage de l'imprimante que je voulais durable, c'est-à-dire que l'imprimante ne soit pas abandonnée au bout de 2 ans et qu'elle soit plus utilisée, et donc pour que son usage dure longtemps, il fallait à la fois repenser sa forme et comment sa forme pouvait faciliter la maintenance.
C'est-à-dire plutôt que d'avoir une sorte de gros parallélépipède, c'est quoi, elle ressemble à quoi?
C'est vrai que l'imprimante classique, donc c'est une boîte noire qu'on peut difficilement ouvrir, et même si on l'ouvre, on ne peut parler, on ne comprend rien. Donc là, c'est l'inverse, donc c'est une boîte qui est ouverte. Enfin, il suffit d'enlever un capot et tout est accessible. Et donc toutes les composants sont mis à plat, les uns à côté des autres, à l'inverse d'une imprimante classique où les choses sont enchevêtrées et inaccessibles. Et un code couleur permet de reconnaître les blocs fonctionnels, de comprendre comment l'objet fonctionne, parce qu'en fait une imprimante c'est assez simple quand on a un peu décomposé les parties. Et ça permet donc à l'utilisateur de réparer, de changer la pièce qui est défectueuse au moment où elle tombe en panne. Parce que c'est inévitable, il n'existe pas de tête d'impression inaltérable, il n'existe pas de... Enfin, rien n'est inaltérable, en fait. Donc,
ce projet, j'imagine que l'idée, c'est de pouvoir le commercialiser. Est-ce que c'est quelque chose, d'ailleurs, Gilles Bellet, qui est simple à faire? C'est-à-dire passer, j'imagine que non, mais en tout cas, d'aller vendre un projet d'un objet qui va durer longtemps à des industriels qui sont censés le fabriquer en grande quantité. Est-ce que là, il n'y a pas peut-être une contradiction, en tout cas un obstacle à franchir?
En fait, ça pose la question, évidemment, du modèle économique et industriel. Donc si je reprends l'exemple de la machine à laver, mais qui pourrait certainement s'appliquer à l'imprimante de Paul, la difficulté est effectivement de trouver l'endroit où vont se faire les marges de profit, parce qu'une société industrielle a besoin d'en faire pour perdurer. En l'occurrence, sur le modèle de la machine à laver, ça veut forcément dire que c'est plutôt par les composants qui, à un moment, ne sont pas inusables, qu'il peut y avoir éventuellement ce genre d'opération. Après, les étudiants qui ont développé la machine à laver, ils sont en contact avec des industriels du secteur qui ont un regard intéressé et curieux sur leur projet. Mais c'est des cycles effectivement de production et de conception qui sont très très courts, en fait. Donc c'est difficile effectivement de s'insérer, de trouver une alternative. Il faut réimaginer complètement le système économique, en fait, d'un tel projet.
Laetitia Vasseur, est-ce que vous avez l'impression que justement aujourd'hui il y a quand même peut-être un nouvel intérêt qui est porté vers cette nouvelle façon de concevoir des objets par les industriels, en se disant, après tout, finalement, il y a aussi sans doute une demande, donc il faut bien qu'on y réponde d'une manière ou d'une autre.
Oui, vous avez le doigt sur le point clé. En fait, c'est la demande pour nous qui est importante et qui joue, c'est-à-dire que les entreprises commencent à s'y intéresser sérieusement parce qu'elles ont compris qu'il y avait une demande à une offre à assouvir. Donc aujourd'hui, par exemple, l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a été créée il y a à peu près 2 ans. Elle a rassemblé une communauté d'environ 20 000 personnes. Ça montre bien qu'il y a un mouvement de fond et que les gens sont très sensibles à la durabilité de leurs produits, à ce qu'ils ne soient pas obsolètes, et s'intéressent de plus en plus à savoir est-ce qu'ils seront réparables, etc. Donc la conséquence directe, c'est qu'on a des designers, des marques, des fabricants comme les distributeurs qui s'engagent maintenant dans la durabilité, la réparabilité, soit de manière un peu marketing, mais derrière la promesse marketing, il y a la satisfaction client. Donc, il y a vraiment un challenge à relever pour ces marques qui voient qu'il y a un effet de mode. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à jouer parce que désormais, ce n'est pas une lubie d'écolo ou de seulement de une poignée de consommateurs énervés. C'est vraiment un mouvement très important qui se met en place.
Je sais pas.
L'imprimante, nous.
Allez-y.
Sur l'imprimante, comme on en parlait, nous, on a relevé deux problèmes principaux dans la plainte, qui sont d'une part sur le tampon absorbeur, qui était une petite pièce qui est en fait comme une éponge qui absorbe les excédents d'encre et qui était complètement cachée. Difficile à réparer, alors que c'est vraiment une pièce anodine. Donc, ça m'intéresse de savoir si elle est facilement remplaçable dans cette machine. Et puis, par ailleurs, sur le modèle économique, en fait, ce qu'on dénonce vraiment par cette plainte, c'est les cartouches. C'est-à-dire que les cartouches étaient considérées vides, alors qu'elles ne l'étaient pas nécessairement, jusqu'à rester de 20 à 50% d'encre. Et c'est ça aussi qu'on dénonçait, c'était l'obsolescence accélérée des cartouches. Et parce que comme on sait que les cartouches sont vendues environ 2000 euros le litre, on voit bien que le modèle économique finalement se situait surtout dans les consommables plus que dans la machine elle-même.
C'est un exemple qui semble beaucoup parler à Olivier Chambron.
Ouais. Non, quand j'étais à la campagne, on a beaucoup récupéré d'imprimantes. Moi, je les désossais principalement pour récupérer les moteurs, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que moi, je mettais deux paires de gants quand je démontais les imprimantes jet d'encre parce que on voyait le gâchis d'encre qui se passait et qui semble pas normal pour une utilisation standard.
Est-ce qu'il y a des vieilles imprimantes, par exemple, que vous avez réutilisées et qui se sont transformées en objets qui n'ont strictement rien à voir? Je sais pas, moi, vous parliez de meubles tout à l'heure. Est-ce que votre lit est un lit fait avec des vieilles imprimantes?
Non, pour l'instant. Non. Alors, je travaille. Peut-être
une idée.
Non, je travaille sur mon projet lit en ce moment, mais pour l'instant, c'est un projet en cours. Non, mais en fait, on réparait pas, mais on dépiotait tous les éléments pour essayer de récupérer des pièces. Là, en l'occurrence, c'était des moteurs à courant continu qui étaient réutilisés dans plein de projets à droite à gauche. De mémoire, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais c'est aussi pour nous une source de matériaux gratuits, voire super pas chers, pour réutiliser et faire plein de trucs avec. C'est écologiquement, je suis d'accord, c'est un désastre, mais d'un point de vue maker ou bidouilleur, c'est plutôt une aubaine de récupérer comme ça des imprimantes jet d'encre qui traînent dans la rue pour en faire autre chose.
Paul Morin, vous nous avez expliqué, donc je rappelle que vous êtes élève à l'École nationale supérieure de création industrielle, vous avez parlé de ce projet. Et non, vous n'êtes plus élève?
Je suis diplômé depuis un an.
Ah, vous êtes diplômé, bravo, félicitations. En tout cas, vous avez donc développé ce projet d'imprimante durable. Il y a aussi un autre projet, les écouteurs réparables.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ça?
Est-ce que ça vous embête si je réponds à Laetitia Vasseur sur...
Brièvement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps.
Ah, donc, d'accord. Ouais. Pour la question du tampon encreur caché, sur mon projet, l'encre est réutilisée pour faire une qualité brouillon, en fait.
D'accord. Voilà. Donc ça c'est un exemple de durabilité. Les écouteurs réparables,
oui.
Ça consiste en quoi?
Les écouteurs réparables, c'est un projet un peu plus ancien. Les pannes sur les écouteurs, ça intervient souvent à cause d'un faux contact. Donc les câbles en cuivre à l'intérieur des gaines sont coupés. Et après, c'est très difficile de réparer ça parce que les soudures sont emprisonnées dans des injections plastiques. Donc, grosso modo, il faut donner un coup de cutter, on coupe tout et après, c'est l'horreur, quoi. Pour éviter ça, j'ai imaginé un écouteur où les câbles de cuivre sont séparés et rassemblés dans une gaine textile qui se rétracte. Donc, comme une petite chaussette, on retrousse la gaine textile et on refait les soudures et on remet la gaine après.
Non, mais j'ai l'impression que finalement, alors je ne sais pas si en termes de design ça fait partie justement des réflexions, mais ce que vous m'expliquez là, c'est que pour que ce soit réparable, il faut que ce soit des éléments dissociables. Il y a un grand fabricant de meubles suédois qui fait des meubles en kit. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est-à-dire l'avenir de l'objet durable, c'est l'objet en kit, Gilles Bellet?
Non, pas en kit, mais je pense que c'est l'objet dans lequel la main de l'utilisateur peut aller en fait. En partie, et puis après, pour prendre répondre sur l'exemple d'IKEA, le problème d'IKEA, c'est la durabilité des matériaux là pour le coup. Oui. C'est-à-dire que c'est en kit, mais c'est pas démontable. Donc ce qui est un paradoxe. Hein,
enfin, c'est démontable, mais c'est pas remontable peut-être. Ouais,
c'est montable, mais pas démontable et pas remontable encore moins. Et puis ça subit une usure ultra accélérée. plus des effets de mode qui ne sont pas négligeables dans ce type d'objet. Donc c'est du meuble jetable quand même plutôt par essence. Mais c'est ce qui est en corrélation avec le coût. Ça, c'est vrai que la question du coût d'un objet pour le consommateur, c'est sûr qu'acheter une imprimante, un frigo pour quelques dizaines d'euros pour l'imprimante, une petite centaine d'euros pour un frigo, on le paye ailleurs en fait. Mais le problème, c'est qu'on ne le paye pas nous tout seuls, mais à l'échelle de la société en fait.
Oui, mais si j'achète un objet qui est vendu comme étant beaucoup plus durable, a priori, on peut imaginer qu'il sera un peu plus cher qu'une gamme produite de manière beaucoup plus industrielle. Beaucoup plus cher, vous dites, Olivier Chambon.
Prenons l'exemple de IKEA, leur table basse à 29 euros. Faites produire la même chose en chaîne ou en hêtre. Et vous verrez le prix. Vous passez, à mon avis, de 29 euros à 290. Enfin, là, j'exagère un petit peu, mais on est dans le x5, à mon avis.
Oui, mais moi, peut-être que ça me convient très bien, parce que je me dis que dans 5 ans ou dans 10 ans, cet objet que j'ai acheté, je n'en aurai plus du tout le même usage. Et que même, je ne sais pas, moi, cette machine à laver censée durer 50 ans, peut-être que dans 30 ans, on n'aura plus besoin de machine à laver, Manuel Charpie.
Oui, non, le facteur mode est quand même très essentiel. On l'a peut-être pas assez évoqué, la question des modes et des usages. Ce qu'on voit là, je trouve, ce qui est intéressant, c'est que ce qui dure, c'est peut-être, s'il y a une définition qu'on peut garder, c'est des objets ouverts. C'est-à-dire des objets qui se prêtent à plusieurs usages, qui vont pouvoir évoluer dans les usages. Et sans doute, voilà, peut-être votre imprimante, le fait qu'on puisse la démonter très facilement, c'est ce qui va faire qu'elle vivra sous d'autres formes, comme on l'a évoqué. Et voilà. Mais je crois que ce qui choque dans l'obsolescence programmée, enfin ce qui gêne, c'est, on parlait d'objets chers, pas chers, un téléphone Apple c'est relativement cher, si je ne m'abuse, c'est produit en Chine dans des conditions épouvantables, donc là il y a quand même un problème, c'est pas un grille-pain, il y aura peu de plaintes je pense pour les grille-pains à 10 euros, 12 euros, voilà, donc là c'est ce problème-là, et du coup moi je serais moins optimiste, mais que la personne qui est au téléphone de l'association
Laetitia Vasseur.
Que Laetitia Vasseur, merci, désolé. Les ligues de consommateurs, etc., sont quand même très très faibles dans notre société, très peu présentes. Je sais pas, le 60 millions de consommateurs est en train de disparaître, si je ne m'abuse. Enfin, l'État se désengage complètement du financement de toutes ces associations.
Mais même, c'est.
Donc, voilà, on n'est pas dans un moment où.
C'est quoi le montant de l'amende? 300 000 euros? le chiffre d'affaires de Apple, c'est plusieurs milliards. Donc pour eux, c'est une épine dans le pied et ça les arrêtera pas. Si par contre on mettait des vraies amendes significatives, peut-être que ça les ferait changer d'avis. Et je suis même pas sûr.
Juste un tout dernier petit mot, si vous voulez bien, Gilles Bellet, pour penser par rapport à ce que disait Manuel Charpie sur peut-être l'évolution des usages d'un même objet. Est-ce que ça, le design permet justement de préparer ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, mais imaginons vous designez un meuble et vous anticipez le fait, vous lui permettez à ce meuble ou à cet objet d'évoluer dans sa forme peut-être et donc dans son usage. Est-ce que ça fait partie des réflexions?
Ça, c'est des réflexions, oui, qui sont très présentes dans le design, qui se traduit souvent par des conceptions modulaires, etc., mais effectivement qui touche à cette question. En fait, c'est un peu la différence entre un dispositif qui va être contraignant par nature et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'appareil, c'est-à-dire quelque chose où l'utilisateur peut vraiment interagir avec. Donc c'est vrai que les designers, pas tous, mais une partie en tout cas, notamment les étudiants, essayent de concevoir des objets qui garde un certain degré d'indéterminé, en fait. Pour reprendre l'exemple de l'imprimante de Paul, je pense qu'une de ses qualités, c'est une certaine forme de générosité, que ce soit dans ses proportions, dans ses matériaux, dans sa robustesse, etc., qui fait qu'on peut l'imaginer dans plein d'usages possibles, autant chez soi que dans un atelier de menuisier à côté de son établi, que chez un graphiste, un designer, etc. Et c'est cette capacité à ouvrir des usages, je pense, qui est importante pour le design.
Voilà, donc il y a la robustesse, il y a la réparabilité, il y a aussi le côté multi-usage qui peut participer de cette durabilité, sans doute souhaitable, de nos objets. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'avoir participé à cette discussion. Olivier Chambon, Manuel Charpie, Gilles Bellet, Paul Morin et Laetitia Vasseur. Les sites des uns et des autres, les ouvrages, tout ça, c'est sur notre site à nous, franceculture.fr, sur lequel vous pouvez réécouter sans limitation de durée, c'est donc à vie cette émission qui a été préparée par Marine Beccarelli, Leïla Saïdi, Fanny Richet, Antoine Dulster, émission réalisée par Alexandra Longuet avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.